Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Auditeurs et auditrices du nord au sud du Mali, bienvenue au rendez-vous habituel du Grand Dialogue. Nous sommes vendredi 16 octobre et comme chaque vendredi, c'est le forum de la presse. Nous vous proposons à cet effet quatre sujets qui auront marqué la semaine. Un pacte d'honneur entre la plateforme et la CMA sur la question d'un fils. Kidal où l'école réouvre après 4 ans. Les évadés du camp 1. Que s'est-il passé? Qui est fautif? En tout cas, des têtes sont tombées. Le DG de la gendarmerie et celui de la police ont été remplacés. Et enfin, si le temps nous le permet, on va parler de ce bilan du Hadj qui ne cesse de s'alourdir côté malien. Pour en parler, nous avons quatre journalistes. Mahamane Cissé du groupe Renouveau, bonjour.
Bonjour.
Amibé Cissé, Radio RFM. Bonjour Ami.
Bonjour.
Yuba Konaté du Zénith Balé.
Bonjour.
Et enfin, pour la première fois au Forum de la Presse, Idrissa Diko, directeur de publication de l'hebdomadaire Viva News. Bonjour.
Bonjour.
Je suis Ousmane Diadé Touré à la technique Gagné Kanté. Bienvenue. Année fils sur les prémices de la paix, les groupes armés de la plateforme ainsi que ceux de la CMA ont annoncé leur entente. On se souvient encore que la CMA, dans un communiqué rendu public le vendredi 18 septembre dernier, avait annoncé la réoccupation d'année fils. Cela après le retrait de la plateforme. Les éléments du Gatia avaient avant cela chassé de la localité la CMA en fin août. Après de longues discussions et sur instruction du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et à la demande de la communauté internationale, les combattants de la plateforme ont alors accepté de se retirer d'Anefis. Cependant, ils avaient comme préoccupation le redéploiement des FAMA et des casques bleus de la MINUSMA pour sécuriser les populations civiles. Finalement, tout est bien qui finit bien. Après moult discussions entre les protagonistes, discussions qui se sont voulues directes entre les acteurs de la plateforme et ceux de la CMA, un accord semble avoir été trouvé entre la CMA et la plateforme. Annoncé hier, ils ont parlé de paix. Ils disent avoir scellé la paix après plusieurs jours de pourparlers. Ce pacte d'honneur devrait mettre fin aux hostilités entre les deux camps, hostilités qui ont ensanglanté le nord du Mali en août et en septembre dernier. Selon le responsable des deux camps, les discussions se sont déroulées pendant près de 3 semaines à Anefis. Alors, Mamane Cissé, dites-moi, ce pacte d'honneur, qu'est-ce que vous en pensez entre la plateforme et la CMA?
Moi, je pense que du moment où des acteurs de la crise accepte de se retrouver sur un terrain qui était jusqu'ici un terrain litigieux, je pense que c'est important. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils le veulent ou ils l'ont fait par contrainte? Et est-ce que c'est un arrangement?
Selon vous, qu'est-ce que c'est?
À mon humble avis, tout n'est pas rose comme on le fait croire. Il y a des divergences, c'est vrai aujourd'hui, mais l'État a besoin d'avoir les deux acteurs se retrouver, se réconcilier. Et les populations aussi ont besoin de ça, et je crois que c'est ce qui a justifié. Mais sinon, il y a des questions de fond qu'il faut gérer avant d'arriver aux autres échéances par rapport à l'accord.
Yuba, dites-nous, alors, Anéfis, il semble qu'on va vers la paix.
Oui, merci Ousmane de nous permettre de donner une fois de plus nos points de vue sur l'actualité de la semaine de notre pays. Effectivement, ça a paru un peu bizarre et ça a pris de court presque l'ensemble des acteurs. Et si c'est parlait plutôt d'acteurs majeurs, moi j'ai dit, c'est les deux principaux acteurs pratiquement de la crise. Donc s'ils décident d'aller à la paix et de cesser les hostilités, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense plutôt que ça s'inscrit dans une dynamique plus globale. C'est-à-dire que désormais, tout le monde a compris de part et d'autre que il n'y avait plus d'alternative que de s'insérer dans la dynamique globale de paix. Donc, ils sont réalistes, je suppose. Ils sont allés dans cette direction et je pense que c'est une bonne chose pour le pays et pour le reste du processus.
Amibé Cissé, ces acteurs nous ont dit, pendant longtemps, ils nous ont dit et répété qu'il faille une discussion entre eux. Alors, est-ce que le fait que la communauté internationale a eu moins d'emprise sur ces discussions-là, qui se sont voulues quand même très directes entre les différents protagonistes, a joué pour quelque chose?
Bien, écoutez, bonsoir à tous les auditeurs d'abord. Écoutez, il faut être très méfiant avec des hommes comme ceux de la CMA et puis ceux de la plateforme. Nous savons bien que moi, je me dis que ce sont des gens qui sont en train de se réconcilier sur le dos de la République. Parce qu'il est évident que nous sommes dans un processus avec 3 acteurs, parce que moi je ne dirais pas 2, comme il l'a dit, il y a les 2 principaux, mais il y a aussi l'État malien qui est là. Mais le fait que les 2 parties arrivent sans témoin, selon tout ce qu'on a comme information, sans présence de l'État malien, à se mettre d'accord sur quels principes? Nous connaissons déjà ce problème, on a parlé un moment de réconciliation et puis de processus intracommunautaire. C'est vrai, ce sont des Touaregs entre eux, mais les divergences sont telles que je suis sûr et certain que si ces gens ont voulu faire la paix, ils auraient dû le faire depuis le comité de suivi. C'est eux qui l'ont bloqué. Donc la paix, je crois que ça doit se jouer à partir du comité de suivi. Ce n'est pas dans la brousse des Anéfis où on tente de nous mettre de la poudre aux yeux. Moi, je ne crois pas trop à cela et il faut être très méfiant. Si je me suis trompé, je crois que c'est une chance pour le Mali.
Alors, Viva News, Idrissa Diko, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, la paix qu'il y a? Mais je ne suis pas vraiment d'accord quand il... On parle de CMA et de plateforme, donc il n'y a pas que des Touaregs, justement. Donc, qu'est-ce que vous en dites?
Bon, merci et bonsoir à tous les auditeurs. Et j'ai envie de dire, moi, tout de suite, que on peut maintenant commencer à croire à la paix. Parce que c'est vraiment, comme l'autre l'a dit, les principaux protagonistes sur le terrain. Depuis, on a tourné, la MINUSMA a parlé, mais c'est eux qui se frappent sur le terrain. Donc, si les protagonistes qui s'affrontent sur le terrain ont décidé de faire la paix, je pense qu'on a toutes les chances d'y croire. Maintenant, il faut se poser beaucoup de questions. Pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce qui les a amenés à cela? Je pense que c'est à ces questions-là qu'il faut trouver certaines réponses et pour mieux comprendre.
Parce que moi, tout de suite, si vous permettez,
parce que la paix, c'est d'abord les premiers bénéficiaires. C'est vrai que c'est tous les Mali qui en bénéficient, mais c'est quand même ceux qui sont sur les terrains d'opération qui sont les premiers à en bénéficier. Je sais que Bamako ne souffre pas autant qu'Anéfis de la crise, pas en tout cas au même niveau. Donc, les acteurs sur le terrain, ce sont eux qui ont des parents déplacés, ce sont eux qui ont des parents réfugiés. Donc, si eux, ils décident de faire la paix, c'est de bonne guerre parce que ce sont eux les premiers bénéficiaires. Maintenant, pourquoi maintenant? Je me pose d'autres questions et je fais le lien avec l'actualité parce que c'est vrai qu'on est dans le processus et les choses semblent avoir commencé avec l'identification des sites de cantonnement. Donc, on peut croire que les choses avancent. Mais aussi, dans quelques jours, on sait que Ibeka sera en France avec tout l'honneur historique dont on nous a parlé. Est-ce que c'est lié? Et je me pose cette question.
Alors, on peut y croire.
Je voulais juste ajouter qu'effectivement, Ami Bear a raison de se méfier, parce que nous n'avons pas encore beaucoup de détails de ce qui s'est passé à Anéfis. Ça s'est passé pratiquement à huis clos entre eux là-bas. Donc, en attendant que nous ayons un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé à Anéfis, moi, je me dis que, globalement, c'est une bonne dynamique qui est enclenchée et je le mets en comparaison avec ce qui se fait de façon globale aujourd'hui dans la communauté internationale au niveau... Tous les acteurs ont compris qu'il n'y a pas d'alternative à ce processus de paix-là. Parce que nous sommes à une phase aussi où les gens sont aussi dans une dynamique de, comme, entre guillemets, de partage. Donc, si tu restes isolé, on va partager sans toi. Donc.
Ça me ramène à ma prochaine question, Maman Cissé. Quand on regarde, il y a Idriss Ould Hamma qui nous avait mis la puce à l'oreille dans ce studio-là. Et la CMA, dans la déclaration, la CMA et la plateforme ont quand même dit qu'il y a plus de CMA, plus de plateforme, qui sont tous les mêmes. C'est quand même une déclaration très forte.
Bon, de la part d'Idriss, qui était quand même de la CMA et qui a regagné finalement... la plateforme, et je pense que il sait de quoi il parle. Moi, j'ai l'impression que d'abord l'État même ne cerne pas la question. Il n'y a pas trois acteurs dans la crise. Quand je dis acteurs majeurs, c'est parce que je pense que s'il y a acteurs, c'est vraiment la plateforme et la plateforme qui en réalité qui reconnaît l'État malien, qui reconnaît la République. Et qui en réalité travaille pour l'État malien. Donc normalement, il ne devait pas.
La CMA reconnaît désormais la
Non. Après signature de l'accord.
Ça c'est un autre aujourd'hui. Débat. C'est-à-dire, ce qui est sûr, avant qu'on arrive à ce niveau, qu'on le veut ou pas, chacun a son identité. Et dans ce que vous appelez le partage des gâteaux, la question d'identité va se poser parce que la CMA, quand on a vu même le partage au niveau du comité des civils, la CMA ne fait pas cadeau. Et par notamment, quand on voit l'absence de gens qui s'appellent Compi 15, la CMA a raison de revendiquer une grosse part Contrairement à la plateforme qui reconnaît déjà le pays et qui se retrouve dans la même dynamique que le gouvernement, je pense qu'il y a des questions de fond, à mon humble avis, qu'il faut gérer avant d'arriver aux autres actions dans le cadre de l'application de l'accord. Et c'est important, ne pensez pas qu'il y a tout de suite la paix, mais il n'y a pas une grande différence entre la CEMA et la plateforme. Peut-être au sein de l'opinion, ce qui arrange le Malien, c'est que, bon, écoutez, il y a un groupe.
Il y a quand même une différence fondamentale.
Non, la différence fondamentale, c'est très simple.
Fondée sur des milliers de morts.
Non, la différence fondamentale, c'est quoi? Il y a une partie qui reconnaît le Mali, qui se bat, qui dit, bon, écoutez, je suis d'accord pour le Mali entier. Il y a une autre qui dit, bon, écoutez, moi, je ne suis pas pour le Mali. Maintenant, qui revient dans les jurons de la République. C'est toute la différence.
Il y a quand même eu cette différence.
Non, cette différence aussi, si on essaie de creuser, vous voyez la manière dont ils se sont retrouvés facilement. Ce n'est pas parce que l'État l'a voulu, c'est parce qu'entre eux déjà, ils ont commencé d'abord à créer des petites règles entre eux. Avant que l'État ne demande à ceux qui se fréquentent, ils ont déjà des règles qui ont été respectées sur le terrain.
Donc en définitive, Amimbe Cissé, c'était une bonne chose ces discussions entre ces différents groupes. Est-ce que vous pensez également que ce sont ces discussions qui ont rapidement ramené à créer ou à nommer très rapidement les membres de la commission Vérité, Justice, Réconciliation, avec quand même comme vice-présidente Mme Nina Wallet Intalou, qui est de la CMA. C'est quand même un symbole fort.
Mais de toutes les façons, moi je n'ai pas la même appréhension. En réalité, quand j'essaie de cerner les choses, et M. Diko parlait tout de suite de paix. Moi je suis sûr et certain que même si ces deux acteurs font la réconciliation, la paix c'est autre chose. On sait que les mouvements terroristes sont encore là et ils ont encore une présence très, très massive, ça et là. Donc, ce n'est pas tout à fait la paix qui vient tout de suite. Mais par rapport à la CMA et puis à la plateforme, on sait qu'ils ont des divergences jusqu'à demain. Même récemment, je l'ai dit dans ce même studio, la CMA a fait sortir un document qui comporte l'état de l'Azawad. Donc, cela veut dire qu'ils tiennent toujours encore à l'ère république. Et il y a une autre analyse que j'ai. Pourquoi aussi subitement ils ont décidé de faire la paix? Peut-être qu'ils se sont dit à un moment donné, l'État malien, la communauté internationale alors, prendront les responsabilités.
Alors, la question qui fâche un peu, cette question d'Azawad, Yuba, dites-moi, Diko, dites-moi, est-ce que l'Azawad est quand même un terroir malien? Ça existe au Mali, un petit coin au moins, ne serait-ce qu'un tout petit coin qui s'appelle Azawad. Alors pourquoi ça devrait fâcher ce nom Azawad aujourd'hui, Diko?
Oui. Écoutez, Ousmane, tout le monde connaît un peu cette histoire-là. Il y a une portion du territoire malien qui s'appelle incontestablement l'Azawad. Maintenant, de vouloir de là créer toute une république, c'est ça qui a un peu choqué les... Et à vouloir, n'est-ce pas, manipuler l'histoire. C'est ça le problème. Sinon, c'est le nom en tant qu'espace terroir existe. Tout le monde, personne ne peut le contester. Maintenant, quand on manipule l'histoire, quand on manipule les faits pour essayer de brandir ça comme si c'était un fait de façon historique, établie, c'est contre ça que les intellectuels maliens et de façon générale les historiens ont dit non. Il faut rectifier ces tirs-là. Maintenant, quand des gens sur un espace donné se disent non, 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 nous ne voulons plus de vous, nous voulons une république, ça peut être naturel, on peut le comprendre. Mais faudrait-il qu'on se donne les moyens, n'est-ce pas, pour, entre guillemets, remplir toutes les conditions pour aller à ça? Autodétermination, on peut appeler ça comme on veut. Maintenant, il n'y a pas de doute. Il y a un espace au Mali qui s'appelle Azawad, mais de là à faire de ça une république qui s'appelle Azawad et qui est fondamentalement... Je vais vous rappeler un truc, Ousmane, permettez-moi.
Yuba, permettez-moi de vous couper juste le temps d'aller en pause. Studio Tamani, 18h30, on revient dans quelques secondes.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Je vous rappelle que vous êtes au Grand Dialogue du studio Tamani. Nous sommes vendredi 16 octobre et c'est le forum de la presse. On parle entre autres du pacte d'honneur entre la plateforme et la CMA sur un effice. Kidal où l'école réouvre après 4 ans de fermeture, les évadés du camp 1 et ensuite le bilan du drame de Mina. À Stéphane, nous recevons Maman Cissé du groupe Renouveau, Amimbe Cissé de la radio RFM, Yuba Konaté du Zénith Ballet, et Idrissa Diko de Viva News. Yuba était sur une lancée.
Je voulais juste dire qu'il faut, par rapport à la question de votre interlocuteur, quand vous avez dit qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre la CMA et la plateforme, ça c'est de la démagogie. Et personne plus que lui ne sait que c'est de la démagogie, ça ne marche pas. Mais je voulais juste rappeler qu'il faut que les gens se rappellent un peu aussi de l'historique de tous ces mouvements-là. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui constituent fondamentalement, en tout cas, de la portion Touareg qui constitue aujourd'hui la plateforme, mais les dernières, lors des dernières rébellions, ce sont ces gens-là qui étaient de l'autre côté. Ceux qui sont aujourd'hui considérés comme étant les jusqu'au-boutistes, c'est eux qui étaient du côté du gouvernement malien.
Alors,
donc, la place a changé un peu. Donc, alors, on ne se met pas dans une logique.
On va évoluer un tout petit peu. On va évoluer un tout petit peu.
Si je veux dire deux mots sur la droite.
Dico, allez-y, vous n'avez pas été très bavard.
Voilà, donc, je pense qu'il y a fondamentalement deux raisons qui font que les gens s'irritent tout de suite quand on dit la Zawad. C'est la revendication territorialiste. Et je pense que demain, si le Wassoulou aussi veut créer sa république, Wassoulou aussi va poser un problème. Donc, le problème fondamental est là. Ensuite, c'est vrai que il y a aussi l'envergure de la Zawad. C'est-à-dire, la Zawad s'étend jusqu'où? C'est-à-dire que historiquement, et tous les Maliens, je pense, le savent maintenant, c'est qu'il y a une portion de terre au Mali qui s'appelle la Zawad. Maintenant qu'on prenne toutes les trois régions du Mali pour dire que c'est ça la Zawad, ça pose encore un autre problème que d'autres ne peuvent pas accepter du tout.
Alors, ce qui m'amène dans le deuxième volet de cette émission consacrée à l'école à Kidal. L'école à Kidal, la rentrée scolaire est prévue pour le lundi prochain 19 octobre. On a l'impression que l'État, dans sa mission d'évaluation technique pour le retour de l'administration du Nord, veut faire de cette date un symbole du retour des services de l'État dans cette zone, qui a quand même longtemps échappé au contrôle de l'État. Dico, toujours, qu'est-ce que vous en dites? Et est-ce que vous pensez aussi que les prémices d'Anéfis aussi ont permis de rassurer les gens quant à réouvrir l'école à Kidal lundi prochain?
Bon, c'est certainement des motifs qui poussent le gouvernement à demander à ce que les fonctionnaires puissent s'y rendre, mais je pense également que la méfiance que les mêmes fonctionnaires ont montré tout de suite est tout à fait légitime. Parce que un fonctionnaire ne peut pas, c'est vrai que tout fonctionnaire est appelé à aller sur toute l'étendue du territoire. Encore faut-il que le même État ait la souveraineté sur tout le territoire, ce qui n'est pas encore le cas. Et moi, je comprends parfaitement les fonctionnaires qui sont encore méfiants. Les jours, on apprendra que le Mali est présent partout et que c'est le Mali qui contrôle partout. Aucun fonctionnaire n'aura le droit de refuser d'aller. Pour le moment, je pense qu'ils ont raison de se méfier et on doit faire plus que cela pour les rassurer.
Alors, Ocha parle de 454 écoles dans au moins 60 communes des régions de Gao, Kidal, Mopti, Ségou et Tombouctou qui n'ont pas fonctionné normalement en 2014 et 2015. Certaines de ces écoles sont fermées depuis le début de la crise de 2012 et d'autres l'ont fait suite à la dégradation de la situation sécuritaire cette année. C'est le cas à Nampala ou à Tenenkou. Alors, Maman Sissé, l'école qui rouvre à Kidal maintenant, avec quand même un déficit d'enseignants aussi, et la logistique qui ne suit pas forcément. Mais est-ce quand même une bonne nouvelle?
Oui, il y a des inquiétudes quand on voit la situation sur le terrain, et surtout le fait qu'aujourd'hui, les enseignants réunis au sein de l'INTM reprochent à l'État de vouloir les conduire à l'abattoir, alors que toutes les conditions sécuritaires ne sont pas garanties. Et tant bien que même dans certaines localités, comme par exemple la région de Tombouctou, où je connais bien, il y a une partie où les enseignants ont abandonné les classes depuis l'année dernière, parce qu'il y avait l'insécurité qui battait son plein, notamment dans le cercle de Gourmararous. Et je pense que c'est politique et c'est peut-être une façon aussi de dire le Mali va être partout. Quand on le voit aussi au championnat national, il y a une équipe de Kidal qui joue, donc il faut faire la même chose, il faut faire les trucs politiques. Mais la réalité est que moi, je pense pas qu'un fonctionnaire, un enseignant puisse conduire à l'abattoir. C'est-à-dire, il faut vraiment garantir les conditions sécuritaires. C'est vrai, Dico l'a dit, quand on est à la fonction publique, on doit servir partout. Mais l'État doit créer les conditions pour que...
On a vu ces fonctionnaires qui sont quand même allés, une mission d'évaluation d'experts. On a vu les ministres qui sont allés à Anéfis.
Ils ont été encadrés.
Ils ont été sécurisés. Mais bien entendu. Alors, Yuba, est-ce que Yuba, ami Bessissé de CNRFM, est-ce que vous partagez le pessimisme de Maman ou...
Non, pas de Maman. Tout le monde a presque la même inquiétude. Moi, à la place d'un enseignant, moi, je n'irai pas parce que avant que je ne parte, le président, depuis qu'il est élu, n'est pas parti à Kidal, à ce que je sache. Le premier ministre Moussa Mara l'a tenté, c'est vrai. Il avait les forces avec lui, mais on a vu
Est-ce que les conditions aujourd'hui sont les mêmes?
Ouais,
aujourd'hui, il y a un accord signé. Aujourd'hui, la CMA et la plateforme sont en train de dire à Anéfis qu'ils sont les mêmes.
Alors, oui, mais vous savez, moi, je ne me fie pas.
Kidal, il y avait un enthousiasme quand on recevait les gens. Il y a Ali Amaha, Idriss Ali Amaha, de la CMA, qui a parlé de signal fort, quand même.
Vous savez, ce sont les dernières personnes en qui moi je croirais. Comme Yubel a dit, c'est de la démagogie. Nous savons ce qui se passe. Si l'armée était aujourd'hui à Kidal, les Maliens peuvent espérer aller. Même au sein de l'armée aujourd'hui, il y a des gens qui n'iraient pas, il y a des policiers qui n'iraient pas, parce que ce n'est pas tout à... ça peut dégénérer à tout moment. La paix, ce n'est pas seulement la CMA et puis la plateforme. Je le dis tout de suite, il y a des groupes terroristes qui tapent ça et là. Donc je crois que l'État veut forcer les choses et là c'est encore beaucoup plus dangereux. Ça risque de nous rappeler ce qu'on appelle les événements du 17 mai à Kidal avec Moussa Mara. Donc il est encore temps de sauver ces enfants. Il ne faudrait pas tout de suite tenter de montrer aux gens que tout va bien. On risque de le regretter. Donc, alors, moi, je ne suis pas aussi optimiste.
J'espère que Yuba va être un peu plus optimiste sur la question de l'école à Kidal.
Oui, certainement. Moi, je pense que Ami B, si c'est un peu fort, ça dit que l'État est dans son rôle. L'État est dans son rôle. Les régaliens de dire, voilà, l'école va faire son retour à Kidal.
J'attends que tu ailles me faire un reportage à Kidal et puis...
Non. J'ai dit l'État est dans son rôle. Justement. Peut-être qu'il faut,
il y a la sécurité,
il faut peut-être terminer, attendre que je termine ma réflexion. Moi, je dis que l'État est dans son rôle. Maintenant, ça dit que l'ouverture va être symbolique et graduelle, c'est sûr. Personne ne se trompe. La zone est encore infestée. Tout le monde le sait. Faut pas qu'on se leurre.
Alors les gens ne vont pas aller. On parle surtout de manque de logistique, de certaines
justement,
classes qui.
C'est-à-dire que même s'il y a la volonté aujourd'hui, même s'il y a de la volonté aujourd'hui de presque tous les acteurs, il y a des réalités des terrains qui vont faire que ça ne pourra pas être effectif. En tout cas, pas partout. Donc, ça va être. Je suppose que ça va être graduel pour des zones comme Nampala et autres qui sont tous quand même concernés par l'absence d'école. C'est sûr que dans une certaine mesure, certaines écoles vont ouvrir, mais ça ne serait pas toutes les écoles. Et alors, au cœur de la polémique, il y a des établissements qui ne pourront pas ouvrir avant 2 ans. Ça, tout le monde le sait.
Idrissa Diko, il y a eu de Viva News, il y a eu 2 écoles qui ont quand même ouvert à Kidal depuis le 2 octobre avec une 50aine d'élèves déjà. L'école qui rouvre officiellement lundi 19 octobre à Kidal. Est-ce une bonne nouvelle?
Mais c'est une très bonne nouvelle et si ça pouvait s'accélérer, c'est une très bonne chose. Ce serait bien que toutes les écoles de Kidal puissent rouvrir dans les meilleures conditions de sécurité. Mais nous disons simplement que ces conditions-là ne sont pas réunies. La question, c'est qui doit assurer la sécurité d'un fonctionnaire malien sur le territoire malien? C'est d'abord les autorités maliennes. Ce n'est pas la MINUSMA en premier lieu. Donc, c'est le Mali. Si le Mali n'est pas sûr de pouvoir le faire, je pense que les fonctionnaires sont en droit de douter. Parce que ce n'est pas la condition. Les infrastructures, c'est certainement important. Mais ce n'est pas la condition première. Si la sécurité est garantie, je suis sûr qu'un enseignant de Kidal ou dans d'autres endroits du Mali peut aller enseigner sous un hangar, pourvu qu'ils aient de la craie et un tableau, en attendant qu'on ait les infrastructures en dur. Donc vraiment, tant que la sécurité n'est pas assurée par le Mali, ça va être compliqué de rassurer ces enseignants-là. Et je pense qu'ils ont raison.
Maman Cissé, la MINUSMA qui d'ailleurs est en train de cibler, de localiser certains sites de cantonnement aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un cantonnement des groupes armés pourrait être un bon préalable, un bon début pour instaurer la paix et la sécurité dans ces zones?
Oui, mais je pense que c'est important, mais avant de partir, je vais d'abord trouver la réponse aux doléances de Diko. Et parmi les gens de la CMA, il y a des enseignants. Mohamed Guéry, c'est un enseignant. Il peut laisser les préparer et aller enseigner. Il y a beaucoup.
Il est désormais millionnaire.
Amberia Guéry, ça est enseignant. Et si on veut la paix, on doit se battre pour la paix. Et pourquoi les gens vont quitter Bamako et aller ailleurs pour se faire tirer? Non, moi je pense qu'il faut être sérieux. Et par rapport au cantonnement, je pense que c'est la nouvelle bataille. Aujourd'hui, pour se faire cantonner, il faut avoir des armes. À ce que je sache, il paraît que c'est ce qui fait aujourd'hui le problème. Ce n'est pas les sites, mais c'est plutôt. Il y a des gens qui veulent se faire cantonner, mais ils n'ont pas des armes.
Ils n'ont pas des armes, c'est-à-dire des non-combattants qui veulent être cantonnés quand
même. Tout à fait. C'est ce qu'il faut gérer aujourd'hui.
Alors, Amimbe Cissé, CNRFM, le cantonnement,
aujourd'hui. La MINUSMA est en train de localiser des sites de cantonnement déjà.
Ben,
c'est,
enfin,
c'est une bonne chose.
Enfin, vous savez, depuis 2013, hein, après les accords de Ouaga, on parlait de ce cantonnement. On y était presque et subitement, les choses ont changé. Il faut toujours être méfiant, moi je ne cesse de le dire. Mais maintenant, comme on l'a dit, s'ils se sont mis dans un processus vraiment de déposer les armes, c'est à la MINUSMA de les gérer. Sauf que la MINUSMA, nous l'avons toujours dit et elle n'a cessé de le rappeler, elle n'est pas là pour faire la paix. Et ces éléments qui sont là, ceux de la plateforme, la MINUSMA a dit qu'elle n'est pas là pour faire la paix. Parce que moi, je pense que la paix, ça se fait avec les armes.
La MINUSMA n'a pas dit qu'elle n'est pas là pour faire la paix. La MINUSMA a dit qu'elle n'a pas mandat pour combattre la guerre.
Ouais, mais,
pour combattre les terroristes.
Oui, mais les terroristes, il va falloir qu'on les combatte quand même à un moment donné. C'est ce que je disais tout de suite. Ce n'est pas seulement ces deux tendances. Donc, aujourd'hui.
Alors, on a Barkhane, on a l'armée malienne qui est renforcée.
Barkhane est là depuis combien de temps? Barkhane est là pour ses intérêts. Barkhane, si Barkhane voulait que la paix soit aujourd'hui réelle au Mali, ça l'aurait été depuis longtemps. Donc, Barkhane est là, nous le comprenons avec le voyage dont Diko parlait avec le président peut-être dans 2-3 jours en France. Donc c'est toujours une bonne chose que ces gens-là soient cantonnés, mais il va falloir que, comme le dit le grand frère tout de suite, il va falloir que les armes soient vraiment, toutes les armes, il faut que toutes les armes soient reprises, parce qu'ils ont des caches d'armes, ces hommes. Ils peuvent faire semblant de donner des armes qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas aussi idiots, ils ne sont pas très bêtes. Il y a des calculs qui sont là, et pour bien discuter, il faut avoir souvent du répondant.
Alors, on va évoluer vers le troisième thème de ce forum de la presse. Il s'agit des évadés du camp 1, quelque chose qui a quand même fait le tour, je pense, de toute la presse malienne. On se souvient de ce samedi 10 octobre, il y a encore juste quelques jours, les Maliens se sont réveillés avec la nouvelle de l'évasion au poste de police du camp 1 de la gendarmerie de Bamako. 7 militaires et un élève inspecteur, plus un civil, se sont évadés. Alors, on aurait dit dans les informations qu'ils auraient forcé le cadenas de la cellule. Il s'agit des capitaines Mamadou Alassane Maïga et Yacouba Kodjo, l'élève inspecteur Souleymane Doukara, tous les trois sous mandat de dépôt du juge d'instruction dans l'affaire de tentative de coup d'État du mois de juillet 2015. À cela s'ajoute le sergent-chef Thierry Diarra, également poursuivi pour tentative de coup d'État, les soldats de première classe Ruben Diarra et Monzon Tchenou, respectivement sous mandat de dépôt pour assassinat et vol qualifié, le deuxième classe Noundjibo pour vol de moto, le caporal Sekouba Traoré pour assassinat et pour finir Boubacar Touré qui est civil et paradoxalement qui est poursuivi pour évasion au 13e arrondissement de Bamako. Diko, négligence ou complicité?
Bon, moi je dois avouer que cette évasion-là est pour le moins surprenante. Dans la mesure où elle ne s'est pas passée dans un coin isolé de Bamako, c'est dans un camp. Que c'est vrai qu'à l'heure de l'évasion, le dispositif est supposé être allégé, mais quand même on sait que dans un camp, à toute heure, il doit y avoir suffisamment d'hommes prêts quand même à arrêter ce genre de situation, quelques personnes, qu'il n'y ait pas au moins une dizaine, une vingtaine d'hommes prêts à parer à cette situation, ça m'intrigue beaucoup. Et ça me paraît quelque peu inquiétant parce que il faut faire le lien avec le grand banditisme qui se développe un peu partout au Mali. C'est quand même des militaires, des gens qui connaissent les armes. Et s'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont partis?
Et qui étaient inculpés pour différentes raisons.
Voilà, et non seulement il y a cela, ils échappent déjà à la justice et autre chose, ça devient un danger. Et puis, moi je fais le lien même, je vais un peu au-delà même des frontières du Mali, parce que nous sommes dans un contexte et dans une sous-région qui connaît un peu les mêmes menaces. Et pendant qu'il y a des évadés ici au Mali, on a au Burkina, par exemple, des éléments de l'ex-régiment, la sécurité présidentielle, des centaines, qui ne sont pas aussi retournés dans l'armée régulière. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait connexion avec tout ça et que ça mette toute la sous-région en danger?
Alors, il est 18h45, une courte pause et nous reviendrons dans ce studio.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, nous sommes le vendredi donc 16 octobre, c'est le forum de la presse. Nous avons quatre journalistes avec nous, quatre journalistes pour parler du pacte d'honneur entre la plateforme et la CMA sur la question d'année fils, Kidal où l'école rouvre après 4 ans, des évadés du camp 1, c'est d'ailleurs le sujet qu'on est en train d'aborder là actuellement et si le temps nous le permet, on va parler du bilan de la Mecque. Alors, On aurait dit que il y a des personnes qu'on aurait retrouvées déjà. Yuba Kounaté, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, merci Ousmane. C'est-à-dire que le problème, contrairement à mon frère Diko, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que c'est la conduite. C'est-à-dire qu'en zone, en pleine zone de guerre, je suis désolé, il y a des militaires, des gendarmes qui s'endorment. Donc, négligence et complicité, c'est les deux. Puisque quand vous regardez un peu le film de ce qu'on nous a raconté, il n'y avait qu'un seul sentinelle qui était debout, les autres dormaient.
Alors, ils étaient censés être dans une cellule fermée.
Fermée, justement, c'est ça la complicité. Il y a la complicité, parce que quelqu'un a certainement dû les aider à avoir de quoi c'est pour, comment dirais-je, faire sauter le verrou. Et la négligence, c'est qu'il n'y avait qu'un seul sentinelle. Bon, c'est ça le problème. C'est notre gestion approximative là qui pose problème. Et ça dit que on ne va pas, comment dirais-je, blâmer nos parents, force de l'ordre. C'est dans tous les compartiments de la vie. Mais c'est encore plus tolérable dans certains domaines que dans d'autres. Parce que ceux qui sont censés assurer la sécurité de nous tous, s'il y a de l'approximation dans ces domaines-là, j'avoue que c'est très inquiétant. Et c'est ça le problème. Et très vite, il faut vraiment qu'on corrige. Parce que ça ne passe pas. Dans l'éducation, bon, je ne l'encourage pas, mais ça peut passer. Dans les trucs, voilà, ça peut passer. Et c'est ce qui est le cas. Mais dans la sécurité des gens, ceux qui détiennent notre sécurité, ça ne passe pas. Puisque un cas de truc de négligence, c'est des morts. Un cas de négligence, c'est des morts. Et c'est tout de suite. Et très souvent, malheureusement, c'est eux qui meurent. D'abord, les premiers.
Maman Cissé, l'inspecteur de police Ousmane Fane, qui n'a pas voulu s'évader, aurait dit que les évadés ont bénéficié d'une aide extérieure qui leur a permis d'obtenir une barre de fer pour forcer le cadenas de la cellule et obtenir une arme. Et on voit quand même qu'il y a des têtes qui sont tombées, puisque le chef de la gendarmerie et celui de la police ont été changés.
Les affaires sont directement liées.
Je pense qu'avant que le directeur de la police ne soit limogé, il y a d'abord. C'est-à-dire, le lendemain de l'acte, il y avait un balai au niveau du camp 1, le camp 1. On a vu des grands officiers de la gendarmerie qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire, c'était vraiment une affaire sérieuse. Et on a vu des responsables qui ont été relevés. Maintenant, est-ce qu'il y a une complicité à l'interne ou à l'externe? Ce qui est sûr, il y a une volonté délibérée de l'État de cacher cette affaire. Et on a vu 72 heures, sinon 48 heures après l'affaire, l'État n'a pas communiqué là-dessus. Il a fallu qu'une équipe de la télévision nationale interroge un officier chargé du dossier pour qu'on puisse savoir réellement le vrai détail. Et il y a un autre détail qu'on ne nous a pas dit. Pendant longtemps, c'est la presse qui faisait écho du fait qu'il y avait des militaires qui voulaient intenter un coup d'État. Mais maintenant, comme ça a foiré, c'est maintenant qu'on le rend public. C'est-à-dire, c'est compliqué. On a l'impression qu'on veut nous cacher quelque chose. Moi, c'est cette impression que j'ai. Et tout au long de cette affaire, je me suis dit, peut-être il y a ou un autre coup qu'on veut nous préparer. On ne sait, ça peut nous amener où.
Donc vous pensez qu'il y a de la rétention d'informations quelque part. Amibé Cissé de CNRFM, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'on est quand même dans un épisode de Prison Break? On se souvient aussi de Wadoussen qui a échappé de la prison centrale.
Vous savez,
il y a encore quelques mois.
Moi, je ne ferai pas le parallèle de l'affaire Wadoussen avec... des militaires maliens, quoi qu'ils aient pu faire. Mais comme Yuba l'a dit, il y a cette facilité qui est là. L'officier dont vous parlez qui n'a pas voulu fuir, lorsque lui, il arrive à expliquer la façon par laquelle ces gens-là sont évadés, mais il pouvait quand même faire quelque chose. Que ça soit avant ou bien après, il pouvait faire quelque chose, il pouvait quand même déclencher quelque chose.
Non, ça c'est trop le demander quand même.
Ils étaient armés.
C'est trop le demander.
C'est ce que je suis en train de dire. Quand même, il pouvait faire quelque chose, de toutes les façons.
Alors, est-ce qu'on parle du laxisme ou de la négligence de nos autorités dans les prisons?
Non, je voudrais d'abord saluer la réactivité et la décision du ministre. Parce qu'au moins, il est venu aussitôt, quel que soit ce qui s'est passé, il a quand même...
Il a été réactif pour toi?
Non, mais à mon avis, il a été... Parce que déjà, il a pris des mesures. Les gens qu'il a...
Je ne dis pas forcément. Hein.
Non, ça, c'est mon avis. Les gens qu'il a limogé, c'était des gens quand même à qui, depuis longtemps,
choses... Le directeur de la gendarmerie, quand même.
Ah oui, bon. Voilà. Donc, oui. Moi, je crois qu'il a été... Il a été ministre assez... Il a pris une décision difficile. Quel que soit, il y a des gens qui sont responsables. Maintenant, il faut... continuer les enquêtes parce qu'on ne peut pas trop communiquer, on n'a pas tous les tenailles et les appuis.
Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si le directeur national de la gendarmerie a été relevé pour cette histoire, Moi, j'applaudis, je dis bravo, mais il faudrait que ça continue.
Mais il a fallu qu'il y ait cet acte pour qu'il soit
relevé. S'il a été relevé pour ça, ouais, moi, je dis bravo. Mais il faut que ça continue. Parce que non.
Mais ça a commencé quand même. C'est ce que j'ai dit.
Il faut que ça continue pour voir d'autres exemples.
On va évoluer, Dico.
Moi, je voudrais d'abord dire que je suis étonné que ce soit un fané quand même qui ait eu le courage de rester. Les forgerons ne sont pas aussi courageux.
On en a deux à la technique.
Voilà, donc mais vraiment, moi je pense qu'il a été réactif, le ministre. C'est peut-être les directeurs qui devaient faire, parce que c'est quand même pas au ministre de contrôler les prisons. Mm-hmm. Maintenant, c'est à lui de prendre les responsabilités quand ceux qui sont chargés de le faire ne le font pas. Je pense que lui, il a été réactif. Maintenant, comme je l'ai dit, ça pose un véritable problème de sécurité parce que la grande prison, c'est vrai, tu as dit que tu ne voulais pas faire le parallèle avec l'affaire Wadusen.
Mais Wadusen, on l'a libéré. Wadusen ne s'est pas fait libérer. On l'a libéré.
Bon, il y a eu une première affaire. Il y a eu évasion.
Voilà, il y a eu une première évasion qui a fait un tollé. Où l'adjudant-chef Sofara, père à son âme, est décédé d'ailleurs.
Exactement. Et ce sont des endroits supposés être ultra sécurisés. En principe, on ne peut pas en sortir sans qu'il y ait des complicités. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités pour gérer tout. Quels sont les complices et arrêter. Et les arrêter tous et éviter que ça se fasse.
Alors, le temps m'oblige à justement aller vers le dernier thème de cette émission, le bilan de la Mecque qui s'alourdit. Le bilan de la bousculade de la Mecque avec ces derniers chiffres communiqués par le comité de crise et des agences de voyage qui fait état de 212 morts, 7 blessés et 153 disparus côté malien. Avec ce bilan, on vient juste après l'Iran qui a eu 400 victimes. Alors, que peut-on dire face à un tel bilan qui pourrait être appelé à évoluer vu les circonstances aujourd'hui? Amin Bessissé, CNRFM.
Bien, écoutez, moi je crois que j'ai entendu le président, j'ai entendu le ministre et même d'autres personnes qui sont peut-être plus ou moins de la société religieuse dire que bon, c'est la volonté de Dieu. Moi, en réalité, je ne crois pas trop à ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de tuer tous ces pèlerins dans son adoration. Moi, je crois qu'il y a eu des responsabilités à suivre. L'Iran est en train de le demander, le gouvernement doit le demander. Et on ne peut pas comme ça se taire dans un pays où il y a une constitution, il y a une loi, on plonge comme ça dans la résignation. Non, ces pèlerins qui sont partis à la Mecque, ils ont pris des assurances, ils ont pris des documents, ils ont déboursé des frais. Et moi, je crois que les parents qui sont encore là, qui n'ont aucune information sur leur disparu, l'État doit pouvoir gérer la situation. Mais ceux qui sont censés défendre les musulmans, ceux qui se disent leaders religieux, ne sont pas en train de jouer le rôle. Et moi, je pense que cela doit changer. C'est une affaire religieuse, certes, mais c'est la responsabilité de l'État qui est engagée. Ensuite, il y a la responsabilité de l'Arabie Saoudite qui, aujourd'hui, est en train de dire qu'elle n'est pas responsable. L'Arabie Saoudite crie aujourd'hui pour dire qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Alors que des pèlerins ont témoigné qu'il y a eu ce qu'on appelle ce passage-là du prince. Que ça soit vrai ou faux, il faut que les choses soient vraiment clarifiées.
En la matière, l'important, moi, je crois, c'est-à-dire que si on doit situer les responsabilités, c'est pour qu'éventuellement, une prochaine fois, ça ne se reproduise pas. Ça doit être la démarche. Ce n'est pas pour pénaliser qui que ce soit, mais que l'on situe les responsabilités et que les gens sachent ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Maintenant, de l'autre côté, puisque ça c'est un autre aspect, et de l'autre côté, ce que nous avons déploré ici surtout, c'est le jeu de cache-cache auquel s'est livré notre gouvernement. On n'a pas compris pourquoi le gouvernement du Mali était 72 heures, plus de 5 jours, 6 jours après, le dernier de tous les gouvernements à travers le monde, a donné ses premiers chiffres. Ça, on n'a pas compris. On a vu comme s'il y avait une volonté de cacher, a priori, ce qui s'est passé à la Mecque n'est pas du ressort du gouvernement malien. Maintenant, pourquoi le gouvernement s'entête à cacher la réalité de ce qui n'est pas de son ressort? Moi, je n'ai pas compris. Comme ils ont tout le temps des choses à se reprocher, certainement, ceci explique cela. Merci.
Maman Cissé, alors dites-moi, c'est l'heure d'ailleurs de saluer les bénévoles qui font un travail magnifique du centre d'écoute des bénévolats qui aident les familles à retrouver ou à avoir des nouvelles de leurs parents disparus.
À la place du gouvernement.
Pas à la place du gouvernement, on va dire.
Des bénévoles. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont envoyé des gendarmes.
Au moins, dans ce pays, il y a des gens qui pensent qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre les responsabilités. C'est-à-dire. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite a intérêt à ce qu'il y ait des morts. La thèse du prince, c'est une thèse que les gens développent. J'ai l'impression que ce qui ne va pas dans mon pays, c'est que Le gouvernement et les agents de voyage n'arrivent pas à s'entendre, n'arrivent pas à travailler ensemble. Et ça, ce n'est pas pendant le drame. C'est fait avant le drame. C'est-à-dire il y avait des petits problèmes. Arrivé à la Mecque, et ce drame est survenu, l'État et les agents de voyage ne sont pas sur la même longueur d'onde. Oui, et ce qui fait qu'aujourd'hui... Non, c'est pas les morts. Je dis, mais si on avait... Si les agents de voyage avaient la liste de tous les pèlerins, on aurait pu se situer. S'il y avait une organisation interne au niveau des agences, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter. Si, par exemple, au niveau du rassemblement, le nombre de personnes qui sont au compte de ton agence ne sont pas sur place, tu pourrais au moins alerter. Moi, je dis qu'il y avait un problème au départ, un problème d'organisation. Et le ministre même l'a reconnu. Il dit que le Mali est le seul pays où on organise le Hajj une semaine du pèlerinage. Le ministre l'a dit. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes.
Dico, alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avec tout ce qu'il y a actuellement, tout ce flux d'informations, Studio Tamani a organisé deux débats sur la chose et on a eu des gens de la Mecque. Ils nous ont un peu expliqué comment ce processus marche. On a vu que c'était pas évident. Est-ce que vous pensez que c'est très difficile déjà?
Bon, moi je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités, que chacun accepte les prendre. L'État en premier, parce que c'est vrai, comme mon prédécesseur l'a dit, on n'a pas compris pourquoi le Mali, c'est vrai qu'au départ, et peut-être jusqu'à présent d'ailleurs, personne n'a encore les chiffres définitifs. Mais ce qu'on demandait à l'État, ce n'était pas dès les premiers jours de nous donner des chiffres définitifs, mais c'était de donner les chiffres qui étaient à sa disposition au moment où on les demandait, et quitte à évoluer au fur et à mesure. Et
l'État a quand même donné un bilan à un moment donné.
Oui, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et ce n'est pas répétitif. Je pense qu'on a besoin de peut-être chaque deux jours, chaque trois jours, en tout cas d'avoir un truc réactualisé. Ça permet, et ça, on ne va pas en vouloir au Mali, que chaque jour que le bilan augmente. Ça, ce n'est pas du ressort du Mali. Maintenant, c'est vrai, il y a aussi la responsabilité de l'Arabie Saoudite, parce que c'est quand même, ça se déroule sur son territoire. Et là, c'est elle qui doit garantir la sécurité de tout le monde. Maintenant, à écouter les pèlerins eux-mêmes, et les pèlerins aussi ne sont pas exempts de critiques. Moi, j'ai quelqu'un qui était là-bas, qui m'a décrit, qui s'est retrouvé dans la bousculade, et qui me dit que lui, il doit son salut parce qu'il a dû s'agripper à un grillage ou quelque chose comme ça. C'est un militaire malien, peut-être que c'est ça qui l'a d'ailleurs sauvé, parce qu'on leur a dit d'attendre 10 heures, en tout cas une heure précise, mais ils ont estimé que comme ils étaient là assis à ne rien faire, ils étaient un peu oisifs et ils vont anticiper, ils vont aller. Donc eux-mêmes n'ont pas respecté les consignes que l'Arabie Saoudite a données. Il faut appeler les gens à être civiques partout et en tout temps. C'est ce qui manque
souvent. Ça ne justifie pas la bousculade.
Merci, c'est tout pour ce numéro du Grand Dialogue. Nous étions avec quatre journalistes, Maman Cissé du groupe Renouveau FM, Amibé Cissé de la radio RFM, Yuba Konaté du Zénith Ballet, Idrissa Diko, directeur de publication de l'hebdomadaire Viva News. Merci messieurs pour votre disponibilité. Un clin d'œil à nos auditeurs de Koulikoro qui nous accueillera très bientôt pour un grand dialogue. Voilà, je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation, Gagné Kanté, un forgeron à la technique, nous on dirait un autre forgeron à la régie vidéo. Cette émission a été réalisée par Sedou Fomba. À très vite sur Studio Tamani pour un autre grand dialogue. Bon début de week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Biro.
Halou de Monde.
Chenne Biro. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.